Bonjour mes frères et sœurs, nous allons continuer notre étude au sujet de l'Épître aux Hébreux. De temps en temps, je vous dirai, Paul a écrit, voilà, parce que je crois que Paul, c'est Paul qui est l'auteur de cette lettre, mais on n'en est pas certain, c'est vrai. Donc on va lire Hébreux chapitre 2, versets 17 et 18. On en a pour un petit moment, hein, étudie la lettre aux Hébreux, elle est longue, hein. Enfin, c'est surtout que je suis un petit peu long, mais ce que je veux, c'est que les explications soient claires. Alors, Hébreux 2, 17, 18. Il devait devenir semblable à tout, en tout, pardon, à ses frères. Il devait devenir semblable en tout à ses frères, afin d'être un grand prêtre rempli de compassion et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple. En effet, comme il a souffert lui-même lorsqu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. Amen. Jésus, je te demande de donner ta bénédiction sur ce qui va être dit et écouter. Merci mon Dieu. Amen. Bon, alors, je ne vais pas répéter tout ce que j'ai déjà dit dans les autres prédications. Premièrement, Dieu est un. Dieu un jour a parlé et sa parole a tout créé. On trouve ça dans Colossiens 1,15, on trouve ça dans Jean 1,1 à 14. Et puis, cette parole s'est faite chair, justement dans Jean 1,14. Je ne vais pas vous lire tous les passages. Je pense que maintenant, depuis le temps que vous me suivez sur Révélation Bible, vous avez tous une Bible. Vous savez qu'on a dépassé les 2500 membres maintenant. Je suis très content de cela. Au fait, une personne qui n'a pas donné, qui n'a pas fait de don pour l'Afrique, me demande en commentaire, mais combien est-ce que vous avez donné pour acheter du riz ? Vous savez que... Alors je lui réponds, ben, vous n'êtes pas un donateur, donc je ne vous dis pas combien est-ce que... nous avons donné, mais à vous qui venez m'écouter, je peux bien vous le dire, nous avons envoyé 1 700 € à Nicolas afin qu'il puisse acheter du riz. Et je vous remercie, vous tous qui êtes des donateurs et qui nous avez aidés. Et continuez à le faire parce que le mois prochain, il va falloir de nouveau envoyer. Parce que bon, ben, ils mangent tous les jours. Hein. Enfin, non, eux ne mangent pas tous les jours, mais ils devraient manger tous les jours. Et bien, nous qui avons quand même la possibilité d'envoyer quelque chose, ben faisons-le. Bon, je reviens de nouveau donc à ce que j'étais en train de dire. Jésus est Dieu, et il était, quand il était dans la chair, il était Dieu dans un homme comme vous et moi. C'est ce que nous venons de lire. Il a été tenté, mais il n'a jamais succombé aux tentations. On trouve ça dans Hébreux, chapitre 2, verset 18. Il s'est gardé propre, pur, pour une raison. Il devait être le grand prêtre humain parfait qui offre non pas des animaux, comme dans l'Ancien Testament, comme les grands prêtres, comme les prêtres le faisaient, mais qui s'offrait lui-même, qui offrait son corps humain en sacrifice pour notre rachat, pour notre rédemption. Alors le but de Dieu était multiple. Premièrement, se débarrasser du mal. Vous vous rappelez, je vous l'ai dit. Si vous ne croyez pas que Dieu veut se débarrasser du mal, je ne comprends pas ce que vous comprenez. Parce que, en fait, tout ce que Dieu est en train de faire, c'est pour en arriver au jugement, pour justement jeter dans les temps de feu Satan et tous ceux qui l'auront suivi, démons ou êtres humains. Deuxièmement, eh bien, Dieu voulait se créer une épouse. On trouve ça dans 2 Corinthiens 11, 2 et dans Apocalypse 19, 7. Dieu veut une épouse. Et l'épouse du Seigneur n'est pas l'Église, mais c'est ceux qui sont dans l'Église et qui sont fidèles, qui se gardent purs et qui ont l'huile qu'il faut pour pouvoir aller à sa rencontre. Hein? Vous avez des gens qui se gardent purs pour le Seigneur, mais ils ne sont pas sages et ils n'ont pas l'huile qu'il faut, ils n'ont pas de réserve. Et puis, quand le Seigneur reviendra, mais ils ne seront pas prêts. Vous connaissez l'histoire des 10 vierges, les folles et les sages. Alors, l'épouse du Seigneur est composée d'êtres humains qui sont tous comme vous et moi, nous avons tous commencé notre vie dans notre péché, mais pas Jésus, parce que Jésus n'est pas né par le sang. Il est né de Dieu. Hein? C'est le Saint-Esprit qui est venu couvrir Marie. La nature humaine est pécheresse. Depuis que Ève et Adam se sont séparés de Dieu, et par Marie, Jésus avait ce côté humain, mais il était Dieu. Aujourd'hui, grâce au sacrifice parfait de Jésus en croix, ceux qui croient en lui, qui ont reçu son esprit et qui marchent selon son esprit, c'est-à-dire selon sa parole, selon sa volonté, ceux-là peuvent devenir l'épouse du Seigneur. Alors ce qui se passe ici-bas, ça a été décidé dans les lieux célestes bien avant que nous venions vivre sur cette terre. Et quand cela a été décidé, eh bien, nous étions présents. Nous étions présents en tant qu'esprit. Alors évidemment, on ne s'en souvient pas, hein, comme Dieu le dit à Job, est-ce que tu t'es présent, Job dit, il ne peut pas répondre, il ne se rappelle pas. Mais nous étions présents et nous nous réjouissions de voir Dieu étendre l'étendue des cieux, de créer les cieux de la terre. Nous étions avec les anges en train de taper des mains et de louer le Seigneur, de voir toute cette œuvre magnifique. Et nous étions d'accord avec lui pour venir ici. Bah, nous n'avons pas... Dieu nous a pas fait une mauvaise farce en nous envoyant ici-bas. Il y a des gens qui disent « Ah, mais moi, je n'ai pas demandé à venir. » Si, si, on a tous demandé à venir, tous. Même les méchants ont demandé à venir pour lancer des défis à Dieu. Alors, nous étions présents en tant qu'esprit et d'accord pour venir ici-bas, pour vivre ce que nous vivons. Alors, je vous donne trois références. Éphésiens 1, 4, 1 Pierre 1, 20, Apocalypse 13, 8. Vous lirez ça après. Alors Dieu s'est choisi un peuple, le peuple hébreu. On trouve ça dans Deutéronome 14, 2. C'était un petit peu comme l'atelier, si vous voulez. À partir de là, à partir d'Israël, le message de Dieu s'est répandu dans le monde entier. Et Dieu a donné à son peuple une loi sur le mont Sinaï, et dans cette loi, il y avait « faut pas faire ci, faut pas faire ça, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas », enfin bon, vous connaissez les commandements. Et puis, il y avait aussi la possibilité de se racheter au cas où il transgressait une des bonnes lois de Dieu. Et pour se racheter, il fallait offrir des sacrifices. Et la plupart des sacrifices étaient des sacrifices sanglants. Alors, il y avait toutes sortes de lois. Et finalement, Dieu est venu lui-même s'incarner pour s'offrir en sacrifice pour notre rédemption. On trouve ça dans Ésaïe 9, 6, hein, qui a prophétisé. Ésaïe a prophétisé, il a dit, voici, un fils nous est donné, on l'appellera conseiller, puis Dieu puissant, Père éternel. Voilà, c'est-à-dire c'est le Père éternel, c'est Dieu lui-même qui est venu. Dieu n'est pas méchant, il n'a pas combiné tout ça, puis ensuite il s'en est lavé les mains pour envoyer son fiston faire le sale boulot de mourir sur la croix. Non, non, il s'est incarné. Jésus, c'est Dieu avec nous. C'est Dieu qui s'est incarné. Ça ne veut pas dire qu'il n'était pas ailleurs en même temps. Dieu est omniprésent, il était partout. C'est pourquoi nous voyons Jésus homme qui priait son Père. Vous comprenez? Mais c'était pas. Il n'y a qu'un seul Dieu, hein, qu'un seul Dieu. Mais qui, à un moment donné, s'est incarné, il est venu dans le corps d'un homme semblable à nous, dans cet homme nommé Jésus. Sur terre, il a participé à tout, à nos limitations, il a été tenté comme nous, en toute chose, nous dit la Bible, et tout cela sans commettre de péché, il n'a pas succombé. Vous trouvez ça dans 1 Pierre 2, 22, Hébreux 4, 14 à 15. Alors, si vous n'avez pas le bout de papier pour prendre des notes, réécoutez le message et prenez des notes, et puis ensuite vous irez lire tout ça dans la Bible. C'est nécessaire de voir dans la Bible que ce que je vous dis est vrai. Parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de personnes qui balancent n'importe quoi, sans donner des références bibliques, et qui se permettent de dire des choses invraisemblables. Et les gens ont cette fâcheuse habitude de tout gober, parce que c'est un soi-disant serviteur de Dieu qui parle. Non, il faut aller voir si c'est écrit dans la Bible, ce que je vous dis. Hein? Et alors, nous allons le voir, la sacrificature de Jésus pour le croyant, elle occupe une place, une énorme place dans l'Épître aux Hébreux. On va voir ça tout au long de notre étude. Et nous le voyons apparaître ici pour la première fois dans ces versets que nous venons de lire tout à l'heure. Maintenant, vous devez savoir que ce que nous vivons ici-bas, dans la matière, dans l'espace-temps, ça a déjà eu lieu en esprit. Parce que dans le monde des esprits, il n'y a pas d'espace et de temps. Tout est là, c'est tout. Alors, ce que la Bible nous dit, c'est que tout cela a été fait avant la fondation du monde. Jésus, il nous est même dit que Jésus a été immolé avant la fondation du monde. Alors, c'est vrai qu'il a été immolé à la croix, sur cette terre, il y a environ 2000 ans, dans notre dimension, dans ce monde, mais Jésus a été immolé avant la fondation du monde, dans le monde des esprits. Vous trouvez ça dans Apocalypse 13, 8, à part dans certaines Bibles qui vous tordent le sens en mettant des virgules là où il ne faut pas. Dans le grec et l'hébreu, il n'y a pas de ponctuation comme ça. Mais ce que les apôtres ont voulu faire comprendre, c'est que le Seigneur a déjà été immolé avant la fondation du monde. C'est-à-dire que c'était dans son esprit, donc si c'est dans son esprit, c'est que c'est déjà fait. Il suffisait simplement de le matérialiser. Enfin, quand je dis simplement, il fallait le matérialiser, que cela soit dans la matière, dans la création. Alors, il faut bien se mettre ça dans la tête, c'est que le monde des esprits n'est pas comme le nôtre. Il n'y a pas de passé, de présent, de futur dans le monde des esprits. Dans le monde des esprits, tout est à plat. Voilà, c'est très différent. Il faudra qu'on s'y fasse, hein, parce qu'on va bientôt, quitter notre corps pour aller dans le monde des esprits. Alors, il faut se faire une bonne raison, hein, et il faut commencer à réfléchir comme ça. En Dieu, tout était, mais il a fallu l'accomplir dans la matière. Il y avait un besoin, celui de créer quelque chose où tout pourrait se jouer, se manifester. Dans le temps et dans l'espace. Parce que ça manquait. Tant que ça n'était pas créé, ça manquait. Il fallait que cela se fasse. C'est pourquoi Dieu, en accord avec nous, a créé ce système dans lequel nous sommes en train d'évoluer, nous. Et Jésus nous le dit bien. Il nous dit, vous n'êtes pas de ce monde. Jean 15, 9. Il dit, moi je ne suis pas de ce monde, mais vous non plus, vous n'êtes pas de ce monde. Et quand Dieu est devenu un être humain, il a dû passer par les douleurs, par des épreuves de divers genres auxquelles nous-mêmes, nous sommes exposés comme chrétiens dans un monde qui est ennemi de Dieu. Le monde est vraiment ennemi de Dieu, c'est terrible, c'est terrible. Il a souffert dans son cœur, il a eu des émotions terribles, très vives, il a rencontré de l'opposition de la part d'hommes, de femmes, de toutes sortes de religieux, de méchantes personnes. Il a été tenté, il a éprouvé dans son caractère d'homme qui voulait être obéissant et qui était obéissant et qui était dévoué, il a quand même éprouvé dans son caractère d'homme le désir de tout envoyer balader, hein. C'est certain, il a été tenté comme nous en toute chose. C'est pourquoi Dieu est plus à même de nous secourir dans tous ces exercices, ces épreuves, ces tentations par lesquelles nous avons à passer, parce qu'il les a vécues lui-même dans un corps semblable au nôtre. Et de nos jours, il est un souverain sacrificateur miséricordieux. Dieu a toujours été miséricordieux. Mais plus que jamais maintenant qu'il a passé par là. J'écoutais un pauvre, vous savez, tous ces faux prophètes qui sont aigris et qui fulminent. J'en écoutais un dernièrement qui disait que Dieu est un Dieu vengeur et que des horreurs, quoi, des horreurs. Il y en a un autre qui me disait dernièrement que Dieu a envoyé le Covid en Chine pour forcer les Chinois à libérer les chrétiens qu'ils gardent emprisonnés. Chiche. On va attendre un petit peu, on va voir si d'ici quelques semaines, vraiment les Chinois libèrent les chrétiens persécutés là-bas dans leur prison. Ils s'imaginent que Dieu envoie le Covid. Je me rappelle quand le sida est apparu, voilà, c'était Dieu qui envoyait le sida pour punir les homosexuels. C'est du n'importe quoi. Dieu n'est pas comme ça. Non, Dieu n'est pas comme ça. Je ne pourrais pas aimer un Dieu comme ça. Il y a le bien, il y a le mal. Il y a Dieu, il y a Satan. Et puis il y a nous. Nous qui, très souvent, n'arrangeons pas les bidons, hein. Au contraire. Et il ne nous tombe pas dessus à la moindre incartade. C'est pas vrai. Ces gens qui pensent ça s'inspirent de l'Ancien Testament pour terroriser les gens en leur parlant de ce que, comment Dieu a ouvert la terre pour engloutir les pécheurs qui sont tombés vivants dans le séjour des morts. Ça, c'était à une époque, voilà, c'est fini ça. C'est le temps où c'est terminé. Dieu ne se manifeste pas comme ça. Non, 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 non. Beaucoup de gens disent, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Ils en ont même fait deux films. Quand il leur arrive une catastrophe, c'est qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Mais non, mais il ne faut pas penser ça comme ça. Il vous arrive quelque chose, c'est pas forcément. Il faut arrêter de penser que Dieu est là avec un bâton au coin des rues pour vous taper dessus aussitôt qu'il vous a fait faire quelque chose qui ne lui plaît pas. Non. Dieu est le Père. Votre papa, il vous voit au travers du voile du sang de Jésus-Christ. Il nous voit comme des êtres pardonnés. C'est pourquoi il dit, Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique. Il y a ceux qui croient sont sauvés, mais en attendant, il voit le monde au travers du sang rédempteur, même les inconvertis. Et s'il arrive des problèmes, il m'en est arrivé, il m'en arrive souvent, il vous en arrive, eh bien ce n'est pas le bras vengeur de Dieu qui vous tombe dessus, qui s'abat sur vous, parce que vous avez fait une bêtise. Non. Bon, c'est vrai que Dieu châtie les siens. On trouve ça dans Hébreux 12, 6. Mais dans Proverbe 3, 12, il dit qu'il châtie comme un papa qui châtie. N'est pas. Vous savez, moi, ça fait depuis 68 que je connais le Seigneur et je peux vous dire, le plus grand châtiment, c'est que Dieu peut nous infliger, c'est de faire silence, de pas nous répondre, de faire comme s'il n'était pas là. Il vous entend, mais il vous laisse un peu dans la confusion pour vous montrer que j'ai fait quelque chose et fait quelque chose qui n'est pas bien. Mais il va pas vous inoculer le Covid-19. Ou il va pas vous donner un cancer, ou il va pas provoquer un accident de voiture ou de moto pour vous punir, ou il va pas faire mourir quelqu'un que vous aimez pour vous punir d'avoir fait des bêtises. Mais non, Dieu n'est pas comme ça. Il n'est pas comme ça. Bon, si vous aimez, si vous pensez qu'il est comme ça, puis que ça vous fait plaisir, continuez à penser comme ça, mais vous devez être malheureux, hein. Dans cette nouvelle alliance, dans la nouvelle alliance, dans le sang de Jésus-Christ, il nous regarde avec miséricorde, et s'il boude un moment, c'est jamais pour longtemps. D'accord? Il vous aime. Alors bon, il ne faut pas profiter non plus du fait qu'il nous aime pour faire n'importe quoi, hein. On l'aime nous aussi, alors on fait attention et on fait ce qu'il aime que nous fassions. Parce qu'en fin de compte, nous savons aussi qu'un jour viendra le jugement à la fin, hein? Non pas pour notre salut, si nous croyons au Seigneur Jésus-Christ, nous sommes sauvés, mais il y a des degrés de gloire, comme je vous l'ai déjà enseigné dans d'autres prédications. En ce moment, hein, maintenant, il est votre sauveur, mais il est celui qui vient à votre secours. Mais un jour vient, et il est proche, où il sera votre juge. Vous connaissez l'histoire, c'est un gamin qui joue au ballon au bord de la route, et puis le ballon va sur la route, et puis le gamin s'élance pour ramasser le ballon, il voit pas qu'il y a un camion qui arrive, et il y a un monsieur qui est là, il prend le gamin par le bras, il le tire fortement pour le sauver. Ça fait mal au bras du gamin, mais le gamin regarde le monsieur et il est tout épouvanté, il aurait pu mourir là, le gamin. Puis les années passent, et puis le gamin grandit, et puis il tourne mal. Il fréquente des mauvaises personnes, et il commet un larcin, ça tourne mal, et il commet un meurtre. Et le voilà devant un juge. Et le juge lui dit, voilà, tu es condamné à passer le reste de ta vie en prison. Et tout à coup, le gamin reconnaît le monsieur, il dit, mais monsieur, je vous connais. Et le juge dit, moi aussi, je te connais. C'est moi qui t'ai sauvé il y a quelques années, alors que tu es avec le ballon et tout ça. J'étais ton sauveur, aujourd'hui je suis ton juge. Eh bien, vous voyez, aujourd'hui Dieu est notre sauveur, il est votre sauveur. Il vous aime, peut-être de temps en temps, il vous choque par le bras pour vous mettre de nouveau dans le bon chemin, mais il va pas vous punir d'une façon épouvantable. Non. Mais un jour il sera votre juge. Aujourd'hui il est votre sauveur, un jour il sera votre juge. Alors, si vous ne le recevez pas comme votre sauveur, quand il sera votre juge, ben vous serez perdu. Et si vous l'avez pris comme votre sauveur, si vous croyez de tout votre cœur qu'il est votre sauveur, eh bien, quand il vous jugera, ce ne sera pas pour vous condamner, mais pour vous récompenser, ou non, ou plus ou moins, pour les choses que vous aurez faites ici-bas, ou que vous n'aurez pas faites ici-bas. Et certains seront élevés au statut d'épouse de Christ, mais pas tous. Hein? Comme je vous disais tout à l'heure, toute l'Église n'est pas épouse de Christ. Ceux qui seront l'épouse de Christ, dans 1 Corinthiens 15, 41-42, nous est dit qu'il y a trois niveaux de gloire. Ceux qui seront l'épouse de Christ brilleront comme le soleil, et puis d'autres n'auront pas cette gloire-là, ils seront sauvés, mais comme au travers du feu. Hein? 1 Corinthiens 3, 15. Et ils brilleront un peu moins, comme la lune. Ça, c'est Paul qui nous le dit, hein, dans 1 Corinthiens 15, 41-42. Et puis d'autres seront à un niveau de gloire vraiment moindre. Ils ne brilleront pas plus que les étoiles dans le ciel, c'est déjà pas mal. Mais enfin bon, quant à faire, il vaudrait mieux se comporter correctement afin de briller correctement aussi quand nous serons dans le monde des esprits. Et avant tout, alors qu'ils seront sauvés, ce qui va se passer, ils vont être emmenés aux sources d'eau. C'est dans Apocalypse 7, je ne sais pas si je vais vous le trouver, Apocalypse 7, verset 17. Et, en effet, l'agneau qui est au milieu du trône prendra soin d'eux et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux. Alors ça, c'est un verset, ça paraît très joli, mais ceux qui vont être conduits aux sources d'eau de la vie, ils seront conduits en fait dans une espèce d'école de rattrapage. Ce seront tous ces chrétiens qui ne connaissent pas la parole de Dieu. La parole de Dieu, la Bible nous dit que c'est l'eau de la vie. Vous voyez ? Donc l'agneau qui est au milieu du trône prendra soin d'eux, les conduira aux sources des eaux de la vie, de la parole. Ils vont être obligés d'étudier les Saintes Écritures parce qu'ils n'auront pas étudié sur la terre, ils n'auront pas pris la peine de. Oh, j'ai pas le temps. Ben, t'as bien le temps pour faire des tas de choses, hein, pour regarder du foot, pour boire l'apéro avec tes copains. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Mais si tu veux prendre du temps pour lire ta Bible et l'étudier, tu peux trouver du temps, hein. Alors, si tu es cette sorte de personne qui ne prend pas le temps, bah, tu seras emmené aux eaux de la vie, aux sources des eaux de la vie, et puis tu auras un cours de rattrapage là, et puis, parce que tu auras été un chrétien un peu dissipé, pas très généreux dans ta vie, alors tu devras apprendre la parole et la mettre en pratique. Tu auras un rattrapage en quelque sorte. Alors, certains recevront même quelques coups. C'est écrit dans Luc 12, 47, des gens sauvés, hein, mais qui recevront des coups parce qu'ils n'auront pas été des bons chrétiens. Sur cette terre, ils ont été chrétiens, croyants, certes, mais tellement stupides, tellement inconscients, tellement orgueilleux, tellement ceci, tellement cela, qui prendront des coups. Ça fait drôle, hein, d'y penser, mais c'est comme ça. Alors, de grâce, souvenez-vous que Dieu sait ce que c'est que de vivre sur cette terre dans un corps humain, il le sait parfaitement. Et sa miséricorde est infinie pour vous. Pour vous qui l'aimez, et qui faites des efforts pour le servir et marcher selon sa parole. Alors je prie, notre Père, qu'il vous aide à marcher de progrès en progrès, afin que vous n'ayez pas à souffrir inutilement ici-bas et pour avoir ensuite une vie éternelle un peu médiocre. Père, je te prie dans le nom de Jésus-Christ, afin que tu éclaires chacun et chacune, et que chacun et chacune puisse se mettre au travail, alors qu'il est encore temps, pour que lorsque tu reviendras, tu nous trouves tous en train de travailler dans ta vigne avec zèle. Au nom de Jésus, mon Dieu. Amen. Au revoir. À dimanche.